Il est 16h51 minutes. Éric Lantier est là, chroniqueur politique et social. Éric Lantier, comment ça va, mon cher?
Ça va bien. Je suis bien heureux aujourd'hui.
Comment ça?
Mais parce que le Canada est en tête de liste en lecture. Donc, c'est l'OCDE qui nous a appris que derrière quelques régions du monde, on fait bonne figure en matière de lecture. Et en tant que pédagogue, je peux vous dire une chose, la lecture, c'est la base de tout savoir.
Ouais. Mais maintenant, comment, j'ai posé cette question-là à mon invité de tout à l'heure, comment, comment on peut, évaluer ces tests-là lorsqu'on se dit que ceux qui choisissent les élèves pour participer le font suivant certains critères qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils vont choisir dans les meilleures écoles? Moi, on me dit que on choisit certainement les écoles publiques, mais est-ce que ça nous donne le véritable portrait de l'éducation à ces niveaux-là qui ont été pris en considération, n'est-ce pas, de l'éducation au Canada?
Oui, mais lorsqu'on regarde les statistiques, par exemple, les différences entre les garçons et les filles, lorsqu'on regarde les écarts qu'il pourrait y avoir entre les immigrants et ceux qui sont les résidents qui sont nés dans les pays respectifs, on voit qu'il y a des tendances qui sont, règle générale, similaires d'un endroit à l'autre ou avec quelques nuances près. Et là, ce que je trouve intéressant, et ce qui nous montre que l'ensemble de l'évaluation, c'est un ensemble qui est quand même objectif, c'est que comparativement aux autres pays, le Canada a une donnée qui correspond à sa nature. Et ce que Le Devoir nous rapporte, le journal Le Devoir, c'est que le Canada est un des seuls pays ou un des rares pays où le statut d'immigrant ne change à peu près rien aux performances des élèves, qui arrivent en gros au même résultat que les élèves nés sur place. Et c'est tellement vrai parce que on a une bonne éducation ici au Québec et dans l'ensemble du Canada, même si je la critique régulièrement. On a une bonne éducation et on place, règle générale, dans l'école publique, on essaie de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Je dis bien, on essaie. Et ça s'est reflété dans les résultats. Et ça nous montre que il y a quelque chose d'objectif qui est là.
Mais Éric Lantier, enseignant, comment on peut discriminer au point où on ne choisit pas d'école sur les réserves, dans aucune communauté autochtone? Est-ce que c'est le vrai Canada où on va choisir dans les grandes métropoles et pour concourir à ces tests PISA? Pourquoi pas les autochtones? Ils ne représentent pas le Canada?
Oui, évidemment. Lorsqu'on touche la question autochtone, dans un premier temps, on touche une question sensible. Évidemment, à plusieurs niveaux, la question autochtone mérite qu'on s'y penche avec encore plus d'attention, avec plus de soucis. Évidemment, vous touchez un point sensible et je crois que nos gouvernements n'ont pas fini d'investir du temps, de l'énergie pour redonner une valeur et une fierté à ces communautés-là.
Et les questions qui sont importantes aussi, parce que lorsqu'on prend le résultat de ces tests PISA-là, de manière globale, on se dit, bon, on a de quoi se bomber le torse. Mais les questions qu'on a à se poser, c'est comment on prépare des élèves à participer. C'est pas tous les élèves qui ont participé. On en aurait beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui a sélectionné les élèves. Sur quelle base on les sélectionne?
Ça, c'est une bonne question. Évidemment, on veut s'assurer pour arriver lorsqu'on fait des concours, lorsqu'on fait des tests, On prépare les élèves et on veut justement s'assurer qu'ils puissent bien représenter chacun des pays. Maintenant, si chaque pays fait la même chose, et c'est sûr que ça, c'est comme les Jeux olympiques, hein, si vous allez chercher meilleur, ben le concours est sur le même pied d'égalité puisque ce sont les meilleurs de chaque pays qu'on va chercher. Et donc, on combat à peu près dans la même catégorie. Maintenant, évidemment, il y a des critères qui sont qui restent des critères qui vont à l'interne, qui sont là pour que on puisse y avoir une certaine objectivité. Donc, moi, je suis pas au courant de toutes les mesures et tout ce qui est derrière.
Alors, j'aime tellement cette comparaison-là. Oui. Lorsqu'on est en train de choisir le meilleur au monde, le meilleur boxeur au monde, le meilleur, je sais pas, tennis au monde, bon, on va mettre les meilleurs ensemble et celui qui va gagner sera le meilleur. Alors qu'il s'agit dans ces concours PISA-là de regarder la valeur de l'éducation pour une société donnée et on les met en compétition. Il y a eu quand même 79 pays à participer à ce concours. Alors, ça donne un portrait. Mais ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs au monde, ça veut dire que c'est les meilleurs dans chaque société.
Oui, mais comme je vous dis, il y a des critères qui n'ont pas été indiqués dans les résultats. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, par contre, lorsqu'on compare année à année, on voit une progression. Et moi, ce qui me préoccupe dans tout ça, M. Pierre, c'est l'écart qu'il y a entre les garçons et les filles. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un problème qui était nord-américain ou je dirais même occidental, mais plus nord-américain. Et lorsque j'ai vu les statistiques, les résultats de ces tests-là et qu'on me dit que il y a une disparité entre les capacités de lecture ou les habiletés de lecture entre les garçons et les filles. Et c'est un phénomène qui est assez répandu à l'international et ça me préoccupe.
Et ça peut être encore beaucoup plus catastrophique ça pourrait avoir tendance à connaître un certain équilibre si ce concours était ouvert aux 180 et quelques pays, n'est-ce pas? Donc, pour dire que plus de la moitié ou près de la moitié des pays du monde n'ont pas participé, et je parle de ces pays où les filles sont victimes de discrimination. Hein? Il y en a dans certains pays où les filles, on les envoie quasiment pas à l'école ou vont aller à l'école très peu. Alors, dans un classement qui comprendrait tous les pays de la Terre, il y aurait un certain équilibre faussement représentatif puisque ça serait le fruit de discrimination, n'est-ce pas? Dans la plupart de ces pays, malheureusement.
Oui. Mais oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il reste que pour nos sociétés comme la nôtre, la société québécoise, on a les moyens, on a les outils, on a une infrastructure, on a des pédagogues, des chercheurs, et on n'a pas réussi à amener à un niveau, je dirais, un niveau équivalent entre les performances en lecture des garçons et des filles. Et je crois que dans les prochaines années, on va devoir mettre un accent prioritaire là-dessus.
Savez-vous quoi?
Oui.
Pourquoi on n'a pas trouvé, au moment où on se parle, depuis le temps que que tout le monde en parle, que les filles ont de l'avance par rapport aux gars? C'est parce qu'il s'agit justement de gars. Si on parlait, oui, c'est vrai.
Oui, je suis d'accord.
Si le problème existait au niveau des filles, tout le monde comprendrait la nécessité de faire quelque chose de manière à ne pas être l'objet de critiques à l'international, pas vrai? À savoir qu'on maltraite nos filles.
Oui, et ça, c'est un élément qui est très important, et il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est que le monde de l'éducation est un monde de femmes, et je le dis avec en tout respect, et ça se déteint, par exemple, dans les choix de lecture, ça déteint dans les thèmes qui sont abordés, les sujets, et souvent les sujets n'accrochent pas les garçons, ce sont des thèmes qui sont des thèmes plus généraux que les filles vont apprécier, mais ça devient important qu'on puisse stimuler la lecture qui va intéresser les garçons et développer un intérêt pour le monde de la lecture, parce que le savoir passe, la connaissance passe inévitablement par la lecture.
D'accord avec vous, Éric Lantier, chroniqueur politique et social. Merci beaucoup et à demain.
C'est un plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. Il est 17h02, le temps d'aller à la pause commerciale. Mesdames, messieurs, on vous revient pour la suite dans un tout petit moment.